Et il est 12h30 sur Principe Actif, l'heure de Radio Super Pouvoir, votre émission qui décortique le monde des comics et des super-héros. Alors installez-vous bien, bon appétit et bonne écoute. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Super Pouvoir, 12e émission et dernière émission de la saison, ça y est, on touche à la fin. Moi c'est Guillaume et je suis rejoint par Cédric, mon co-animateur. Bonjour Cédric.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en podcast.
Alors comment tu la sens cette dernière émission de la saison?
Très bien, moi je suis très content d'avoir réussi à faire un début d'année, hein, puisqu'on a commencé en janvier. Et puis j'espère bien que voilà, on a mis les choses en place, on commence à trouver un petit peu le rythme. On espère que ça vous plaît, hein, voilà, c'est surtout ça. Vous qui nous écoutez, vous avez autant de plaisir à nous écouter que ce que nous on a à produire cette émission. Et puis on vous donne rendez-vous donc l'année prochaine pour une vraie saison complète avec certainement beaucoup d'innovations. Voilà.
Voilà, exactement. Mais pour ça, on va revenir à cette 12e émission sur laquelle on vous a choisi un sujet assez costaud qu'on traitera en plusieurs parties parce qu'une émission suffira pas pour ça. C'est les crossovers. Ouais,
les crossovers, c'est-à-dire les rencontres entre différents super-héros issus d'univers différents.
C'est un truc qui marche dans les comics et bon, si vous êtes un lecteur de comics des années 90, vous savez sans doute ce que c'est car ça a pas mal explosé à cette époque-là, même si ça a une histoire beaucoup plus ancienne. Donc pour ne pas déroger à la règle, on va d'abord vous présenter les actus et les sorties du mois d'août et
on enchaînera ensuite avec le dossier sur les crossovers.
Exactement. Et entre les deux, une critique d'un comics qui est un crossover justement, Predator versus Wolverine. Donc on lance le petit jingle et on se retrouve juste après pour la partie actu et sortie. Panini vient d'annoncer, à l'heure où on enregistre cette émission, la sortie du tome 2 de l'Omnibus Predator pour le mois de décembre. Donc on vous l'avait déjà recommandé dans la deuxième émission, le premier tome de l'Omnibus, qui était vraiment très bien. Donc ça reprend le contenu de l'édition VO comme le précédent. Donc là, la période traitée, ce sera celle de la fin des années 90, jusqu'à la trilogie Predator Hunters, qui a un peu conclu ce qu'avait fait Dark Horse avec le personnage, donc ça date de 2020, juste au moment en fait du rachat de la Fox par Disney. Par contre, pas de trace de l'adaptation de Predator, le scénario original. Alors pour vous faire le petit historique très rapide de ça, c'était dans la série scénario original, donc ils avaient fait pas mal de scénarios sur Alien par exemple, ils avaient aussi fait la planète des singes, et donc au moment où il y a eu le rachat, ils devaient faire un volume sur Predator, le scénario original. Le premier numéro était sorti dans quelques comic shops par erreur, donc certains avaient pu se le procurer. Sauf que la série a complètement été enterrée par Marvel, et malgré qu'on sait qu'elle était finie, mais c'est peu probable qu'on la voie sortir un jour, et donc comme elle n'est pas dans cet omnibus, c'est sans doute fini pour de bon.
À mettre du côté perte et profit.
Voilà, comme quoi ça n'a pas vraiment eu du bon ce rachat, hein, pour plein de choses. Hein. Enfin, ça, on pourra en discuter, mais c'est... personnellement, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise chose. Hein, mais bon, je sais pas ce que t'en penses.
Comme souvent, quand Marvel rachète des licences sur Star Wars, ils ont fait un peu n'importe quoi au niveau comics et ils devraient se contenter. Conan, c'est pareil, on a fait toute une émission dessus.
Oui, enfin, oui, pareil.
Ils devraient se contenter de rééditer les épisodes qui ont vraiment bien marché et essayer de pas produire des trucs de qualité relativement relative, voire médiocre, pour essayer de surfer là-dessus, quoi. Je pense que les gens qui ont aimé du Conan, qui ont aimé du Predator, qui ont aimé du Alien, sont des vieux lecteurs. C'est pas la peine de leur faire plaisir avec un crossover Conan et les Avengers ou Predator contre, je sais pas, moi, Jubilé bientôt, peut-être, j'en sais rien.
Moi, je dis, ça sent le crossover Predator versus Venom.
Oui, Predator versus Alien versus Venom versus Mickey Mouse versus ce qu'on veut. Bon.
Versus Howard the Duck.
Ouais, encore une fois, quand on donne ça à des auteurs qui ont des vraies idées dessus, en fait, on se trompe de sens. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, on va faire une série, tu vas en parler, hein, Predator Wolverine. On va filer ça au premier scénariste qui passe et aux 5-6 dessinateurs qui devaient être là ce jour-là.
Ouais, en plus, c'est quand même là, j'anticipe, mais c'est quand même là, il y a 4 numéros Et il a fallu 7 dessinateurs pour 4 numéros. Ouais, déjà, il y a un problème.
On va en parler, mais... Et là, je pense qu'en fait, le processus créatif, il doit être autre. C'est-à-dire que vous devez avoir un scénariste, un dessinateur, peu importe qu'il soit connu ou pas, qui doit arriver avec l'éditeur, ou l'éditeur doit dire, bah, qu'est-ce que vous me proposez là-dessus ? Et puis, s'il y a une idée originale qui sort, on y va, quoi. Voilà. Bon, ça se fait à l'envers, mais ça continue à se faire. Donc, ça se vend aussi. Donc, bah, voilà, si ça marche, s'il y a des lecteurs qui achètent et qui ont envie de s'éclater sur du Predator versus Wolverine, eh ben allons-y, hein. Il y a bien des gens qui adorent les Tortues Ninja, hein. Donc finalement,
ouais, c'est bien meilleur les Tortues
c'est
Ninja.
Possible dans les en comics. Plus,
en plus, t'en as acheté un, tu pour les 40
j'en ai
ans.
J'ai les trois premières intégrales, monsieur, cause de vous.
Bon,
que je n'ai pas encore lu d'ailleurs.
Bon, mais... tu vois, tu vas les lire parce que pour la rentrée, il y a les 40 ans des Tortues Ninja, donc c'est toi qui nous fera la critique d'un truc Tortues Ninja. Voilà.
Ok, très bien. Bon, on va passer aux sorties directes, hein, avant que ça dégénère. Hein.
Oui, oui. Oh, si ça se trouve, ça amuse les gens derrière leur radio.
Oui, évidemment.
Donc, les sorties. Alors, je vais commencer, moi, du côté d'Urban Comics. Donc, le 19 août, un crossover, évidemment. Justice League versus Godzilla versus Kong. Ouais, déjà, ça part pas très bien.
Si vous m'entendez pas, c'est normal. Hein. Là...
Bon, j'abuse, ça a l'air drôle, mais bon, Predator Wolverine, ça avait l'air drôle aussi, donc je verrai quand je le récupérerai. Donc c'est de Brian Bucelato et Christian Ducce au dessin. Alors Christian Ducce, je ne le connais pas.
Bon, c'est assez... Brian Bucelato, il a commencé comme coloriste. Il a scénarisé pas mal de choses, il me semble qu'il avait pris le relais de Tom Taylor sur comment ça s'appelait, ses adaptations de jeux vidéo où Superman devient méchant.
Injustice,
voilà,
c'est
Injustice.
Ça.
Brian Bucelato, c'est un très bon coloriste, c'est pas un mauvais scénariste. Christian Ducce, je sais pas, je vois pas qui c'est. Le nom me dit quelque chose, mais j'ai rien lu de lui.
Moi, c'est un truc, tu vois, par rapport au Predator versus Wolverine, de ce que j'ai vu, au moins, il y a une unité graphique qui est présente. C'est déjà un gros plus. Et les planches sont assez chouettes. Bon, il y a un truc, il y a un méca Batman avant qui va se friter contre Godzilla, évidemment.
Mais forcément, un méca Batman, tu peux que acheter, en fait. Tu vois,
exactement.
Alors, un méca Batman, généralement, je te dis, allez, au revoir, à la prochaine. Hein, et puis,
moi, c'est ce qui me donne envie de le prendre, en fait. J'ai vu le méca Batman, je me suis dit, ça a l'air bien, ce truc.
Non, après, l'équipe d'auteurs qui a affecté là, ce titre-là est plutôt sympa. Bucelato, c'est un bon scénariste. Après, il n'aura peut-être pas des idées hyper originales. Encore une fois, hein, si les lecteurs veulent trouver un truc fun, ma foi, c'est pas moi, vieux lecteur de comics réfractaire, qui vais surtout leur dire de ne pas l'acheter, quoi. Voilà.
Sachant que c'est à nouveau une collab entre DC et IDW. Vous en parlez dans la dernière émission avec le rachat qui a pas eu lieu, mais les deux maisons d'édition continuent de bosser ensemble. Hein. Elles font beaucoup de crossovers ensemble.
Peut-être que le salut aussi est aussi dans ce genre de choses. Hein. On en voit de plus en plus des crossovers, des mélanges d'univers. Ça attire deux fois plus de public. Je pense que c'est aussi un intérêt des maisons d'édition pour relancer un peu certains de leurs titres et pour relancer certaines ventes. Même si ça fonctionne jamais à long terme, mais pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas.
Nous voulons le crossover Daredevil versus les Tortues Ninja. Marvel, bougez-vous.
Moi, limite, j'attends un crossover maintenant, Godzilla versus, je sais pas, moi, Jubilé, hein, comme j'ai dit, ce sera très très bien. Mais encore une fois, hein, on pourrait faire des choses très sympas, il suffit juste d'avoir des bonnes idées. On espère que ce sera le cas avec ce Justice League versus Godzilla versus Kong. Voilà.
Ouais, on vous en parlera, c'est sûr. Le 30 août, il y a Batman First Sight de Dan Jurgens et Mike Perkins, donc ça se déroule dans les années 30, c'est dans un univers alternatif. Alors pour moi, c'est vraiment une curiosité, j'attends de voir ce que ça donne, ça a l'air sympa comme ça. Toi, c'est un titre qui t'intéresse ?
Alors Mike Perkins, oui, tout de suite, parce que c'est un artiste qui est en train de... qui a explosé sur... qui était déjà très très bon, hein, Mike Perkins, et puis vraiment, moi, il m'a livré des planches absolument phénoménales sur la mini-série Lois Lane, qu'il avait fait avec Greg Rucka. Après, moi, je suis pas intéressé par ces histoires dans les mondes parallèles qui se déroulent. Enfin, voilà, les multivers, les Elseworlds, tout ça, moi, ça m'intéresse de moins en moins. Dan Jurgens, bon, est peut-être un peu vieux, je sais pas ce qu'il peut nous proposer. En tout cas, graphiquement, je sais que ça va être génial. Au niveau du scénario, à voir. Dan Jurgens, c'est aussi un bon faiseur, on va pas se mentir. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu des choses sur lui. On verra, je jetterai un coup d'œil, je pense. Voilà.
Tu as d'autres choses aussi chez Urban à ce moment-là dont
alors
tu voulais nous
là,
parler?
Urban, ouais, Urban en août, fin août, là, pour la rentrée, ils vont vous sortir du très 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 lourd. Bon, pas original, mais du très très lourd. Parce que là, Urban en août va vous proposer quasiment les meilleures séries de l'univers DC en intégrale. Et quand je dis les meilleures séries de l'univers DC, c'est vraiment des séries qui méritent d'être dans n'importe quelle bibliothèque, que vous aimez les comics ou pas. Il y aura une intégrale 100 Bullets, qui est une série d'espionnage, qui elle a une vraie unité graphique, puisqu'elle contient 100 épisodes. Je crois que cette intégrale-là, il y a les 25 premiers. Donc vous allez pouvoir avoir l'intégralité de la série en 4 numéros, avec Eduardo Risso, qui est un dessinateur européen en plus, hein, voilà, enfin au style européen, qui est une série absolument phénoménale, qui arrive à nous livrer de l'espionnage, de l'action, du policier. Très très noir et c'est vraiment très bien. Vous allez avoir une intégrale Sculpt. Alors Sculpt, c'est pour moi, je pense, la meilleure série de ces 25 dernières années. C'est une histoire sous fond de FBI dans une réserve indienne au milieu des États-Unis. Il y a des histoires de casino. Il y a un peu de fantastique aussi de temps en temps. C'est la série qui a révélé hein, Jason Aaron qui a ensuite atterri chez Marvel et puis qui fait maintenant un truc un peu bizarre, je crois. C'est quoi? Les Tortues Ninja, je crois, un truc comme
Oui,
ça.
c'est ça, oui.
Voilà. Donc
Après le
vraiment.
désastre de son dernier passage chez Marvel,
Voilà,
avec Conan.
et puis là une unité graphique monstrueuse avec ouais là c'est vraiment avec RM Guerra du coup là on est sur des planches qui sont exceptionnelles vraiment grosse série Sculpt allez-y quoi hein, allez-y voilà on aura aussi Top Ten hein, une intégrale Top Ten donc qui est à mon sens la série la plus sympa d'Alan Moore. Je dis pas que c'est la meilleure je dis que c'est la plus sympa qui nous raconte l'histoire d'un commissariat en fait situé dans un monde futuriste où il n'y a que des super-héros. C'est très très bien, c'est très feuilletonnant. Si vous aimez les séries, vous allez adorer Top Ten. Voilà, ça fait très série télé. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 références. Alan Moore, il sait raconter des histoires et quand il veut raconter une vraie histoire et pas nous inonder de références ou de choses pour nous montrer qu'il est le meilleur, bah, je trouve que c'est là que ça marche et Top Ten, c'est vraiment une réussite. Et puis, bah, même si j'ai beaucoup de problèmes avec ce scénariste, je ne peux que vous conseiller Sheriff of Babylon, hein, qui est une histoire qui vous laissera là aussi à par terre sur l'Irak après l'invasion, enfin après la guerre contre les États-Unis, et puis comment le pays remonte. C'est une histoire d'espionnage aussi. Donc ces quatre intégrales, hein, 100 Bullets, Sculpt, Top Ten et Sheriff of Babylon, foncez quoi, vraiment. Vous lirez pas souvent grand-chose d'aussi bon en bande dessinée. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun super-héros dedans, si ce n'est peut-être Top Ten, voilà. Je note aussi hein, en sortie l'intégrale de Danger Street, qui est la nouvelle mini-série de Tom King. Hein, et ça, moi, elle m'intéresse parce qu'elle prend des personnages pas trop connus. Elle fait revenir Starman. À voir, ça m'intéresse. On en reparlera, je pense, là aussi à la rentrée. Et toi, t'as des choses en fin août, Guillaume?
Oui, chez iComics le 28 août, donc il y a The Last Ronin, The Lost Years. Donc c'est le préquel du plus gros succès des Tortues Ninja en France et même aux États-Unis. Donc The Last Ronin, si vous ne l'avez pas lu, bah.
Que j'ai lu!
Tu
Je
l'as
l'ai lu,
lu.
moi,
Ah,
The
tu
Last
l'as lu.
Ronin. Oui, je l'ai lu.
Eh bah, ben, The Lost Years est bien meilleur.
Ok.
Oui, tu vois qu'il
C'est
n'y a pas
bon.
eu les galères de production qu'il y a eu sur le premier, dû notamment au confinement et à tout un tas de choses, au chamboulement qu'il y a eu chez IDW, là. Tu vois que ça a moins été galère pour eux de l'écrire et de le mettre en image.
D'accord.
Alors, si vous aimez l'univers de The Last Ronin, il faut le lire parce que c'est un préquel, mais ça sert aussi de suite. Alors, je spoil pas pour ceux qui n'ont pas lu The Last Ronin, mais on suit certains personnages donc qui seront présents dans la suite, donc The Last Ronin 2, Réévolution, et qui normalement arrivera l'année prochaine chez iComics. Voilà. C'est marrant parce que The Lost Years, c'est beaucoup plus ambigu, je trouve, que The Last Ronin. Par exemple, c'est très mis en avant le fait, donc le Ronin. Ouais, bon, si vous l'avez pas lu, quand même, exagérez pas. Donc. On se rend compte qu'en fait, il est dingue. Qui s'est pris un moment, il se prend un coup à la tête, on voit bien qu'il y a un truc qui va pas très bien chez lui. Il n'y a pas la lumière qui brille à tous les étages, quoi. J'espère que ça vous vend un peu le truc. Donc ça arrive le 28 août. Sinon, il y a un manga chez Mangetsu, très rapidement, le 7 août. Donc c'est Red Blue, le troisième tome. La critique est dispo sur superpouvoir.com et les deux premiers tomes sont vraiment bien. Donc c'est un shonen manga qui parle de MMA, c'est vraiment chouette. Pour moi, c'est le haut du panier en termes de manga de sport, hein. C'est vraiment un genre assez particulier. Et celui-là est très bon. Le 21 août, on a aussi la sortie du tome 10 de Golden Guy. Donc, Golden Guy, c'est quoi ? C'est un manga de Yakuza. On en est déjà au tome, qu'est-ce que je vous dis ? Tome 10. C'est une série un peu spéciale. On est vraiment dans le côté un peu Ninkyo, qui est un sous-genre du film de Yakuza, qui est apparu dans les années 60. C'était quelque chose qui était produit par la Toei. Enfin, principalement par la Toei. Donc, ça a permis l'émergence de beaucoup de stars à l'époque, comme Ken Takakura, que vous avez pu retrouver après dans des films américains où il y avait des petits rôles. Et donc, Golden Guy, c'est le dernier manga en date de Jun Watanabe, qui a un mangaka pas extrêmement connu, mais qui fait des choses très solides. Il a fait un manga d'horreur, notamment, qui s'appelle La Malédiction Finale, qui est un truc un peu façon Destination Finale, on va dire, qui est plutôt sympa. Et donc là, il revient un petit peu au genre du manga de Yakuza, et c'est assez chouette. Le premier arc, ça traite d'une espèce de chasse au trésor, donc c'est vraiment sympa. On passe maintenant à la critique, on envoie le jingle et on se retrouve juste après.
Et donc, on l'attendait, et tu vas nous l'envoyer.
Oui, oui, on l'attendait.
C'est le crossover qu'on peut appeler le crossover de la muerte, hein, puisque c'est quoi ? C'est Predator versus Wolverine.
Oui, le crossover de la mort est pas pour de bonnes raisons. Hein. Pourtant, je l'attendais celui-là, mais... Ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est un nanar ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est un bon nanar ? Non. Pourquoi ?
Ah, c'est le problème.
Oui, c'est le problème. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit en intro, 6... Et on a 9 auteurs au total en comptant les deux dessinateurs. J'ai même pas mis la coloriste. Même les coloristes, je crois qu'il y a plusieurs coloristes. Donc beaucoup d'auteurs pour un résultat assez douteux quand même. On se dit qu'en
donc
étant...
c'est 4 numéros, hein, c'est ça le...
4 numéros, oui. Et c'est vendu 19 euros. 4 numéros, c'est cher.
6 dessinateurs, 2 ouais. scénaristes.
Oui, et des coloristes.
Ça sent pas bon, hein. Ça
non.
Sent pas bon.
Non, non. Donc c'est écrit par Benjamin Percy, le scénariste attitré de Wolverine. Je n'ai pas lu ces Wolverine, je ne dirai rien.
Bah, je suis pas grand fan de Benjamin Percy. Après, ouais. ça reste du scénario correct. Et du coup, il y a un dessinateur du coup.
Alors, on a Greg Land. C'est lui qui fait la meilleure partie du récit. Et c'est pourtant la partie Greg Land, elle est bien, elle est marrante. C'est ça que j'ai lu en VO. Je me suis dit, oh, ça a l'air quand même rigolo. En plus, Greg Land, là, il est marrant. Ouais, bon bah.
Ok.
Heureusement qu'ils l'ont mis sur le premier numéro. Ensuite, on a Andrea Di Vito. Je ne sais pas qui c'est.
Si, si, c'est un dessinateur très correct.
Oui, je connais le nom, mais... Ouais,
il a
voilà.
fait des crossovers. C'est lui qui avait fait le crossover avec les Avengers, tout ça. C'est très honnête. C'est très, très honnête.
Oui, là, c'est... Ça manque de gore pour moi, à mon goût, parce qu'il a une partie, justement, où ça devrait bien charcuter, et en fait, c'est trop propre. Mmh. On a après Aiden Sherman.
Inconnu.
Oui, pareil. Kay Zama.
Inconnu aussi.
Et Gavin Guidry. Et lui, c'est une... et lui, c'est une catastrophe.
Ah oui.
Mais vraiment, hein, mais vraiment, hein, je dis pas ça. Et donc, enfin, notre ami Ken Lashley. Et lui, c'est bien. Mais en fait, il fait pas grand chose. C'est pour ça aussi. Il est assez peu présent, alors que pourtant, son nom est marqué en gros sur la couverture, mais il fait pas, tu le vois pas beaucoup, son dessin, en fait.
D'accord, oui. Ouais. Du coup, graphiquement, ça en voit pas. Parce que c'est pas parce que ce sont des dessinateurs qui sont pas connus que forcément ils sont mauvais. Mais là, graphiquement, et il y a pas d'unité graphique non plus, alors.
Non, zéro unité graphique, et ça dérange, je vais revenir là-dessus, mais c'est vraiment problématique.
Ouais.
Parce que, donc Ken Lashley, en fait, il s'occupe de la partie qui se déroule dans le présent. Parce que oui, c'est un récit sous forme de flashback.
D'accord.
Donc, qui nous raconte la confrontation entre le Predator et Wolverine depuis l'année 1900.
Okay.
Donc, clairement, Aiden Sherman et Gavin Guidry, c'est les pires numéros qui sont disponibles dans ce tome. Hein. Franchement, c'est... Limite, je dirais que c'est même du navet. Hein. Parce qu'il y a des trucs... Ouais. Bah, en fait, Aiden Sherman, il s'occupe de la partie Arme X du récit.
D'accord.
Donc, en tant que fan de Barry Windsor Smith, on est tous les deux fans de l'arme X, je suppose.
Oui, oui, tout à fait.
Et donc là, il essaye d'imiter le style de Windsor Smith, sauf que bah, tu vois qu'il a pas le talent de Barry Smith, c'est clair. Et le résultat, il est, je dirais, comique. Parce qu'à un moment, le Predator, il liquéfie le visage de Wolverine, et tu verrais la tête qu'il a Logan à ce moment-là. Waouh, c'est chaud. Mais vraiment, c'est très très chaud. Hein. Je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, hein, vraiment, je l'attendais, mais tu vois, un truc rigolo, mais je m'attendais pas à ce que ce soit calamiteux à ce point.
D'accord.
Alors par contre, les couvertures sont signées Marco Cecchetto et sont plutôt jolies.
Ouais, ok.
On sait pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas pris pour faire le dessin sur toute la série, on se demande. Enfin, oui, Benjamin Viette, il me disait dans une émission que vous écouterez plus tard, ce qu'il aurait fallu, c'est Ryan Otley sur une série comme ça.
Oui, clairement, oui.
Il a fait Grizzly Shark, par exemple. Enfin, tu te dis, oui, c'est le gars qu'il fallait, il le fallait au scénar et au dessin.
Ouais, donc... tout à fait.
Mais bon... On a du Ben Percy et plein d'autres gars, quoi. L'unité graphique est absente, et franchement, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est fat, quoi. C'est, tu te dis, ça pourrait être drôle, mais en fait, à part la partie Gregland, c'est fade. Donc, qu'est-ce qui reste, en fait, quand tu regardes ça, tu te dis, bah, vis-à-vis de l'œuvre originale, enfin, de Predator, Benjamin Percy, il est pas du tout déférent, t'as même l'impression qu'il comprend rien à l'univers. T'as un Predator dans la neige, tu te dis... T'es au courant que dans le premier film, on te dit que le prédateur, il est attiré par la chaleur. Là, non, il vient en Antarctique, on sait pas... Enfin, en Alaska, tu sais pas trop pourquoi. Chuck Dixon, par exemple, qui avait fait un arc qui se déroulait justement en Sibérie, lui, c'était cohérent, je vous spoil pas pourquoi, c'est dispo dans l'Omnibus tome 1 de Predator. Mais il y a un sens, on sait pourquoi il est en Sibérie, le prédateur. Il y a un jeu là-dessus, mais... Alors que là, c'est juste gratuit, tu sais pas pourquoi il arrive ici. C'est aussi... un petit peu difficile de se dire qu'il reconstruit toute l'histoire de Wolverine autour de sa confrontation avec le Predator. Donc en fait, là-dedans, tous les événements sont liés au fait que le Predator essaye d'attaquer Wolverine, par exemple, il arrive à sortir du labo de l'armée X parce que le Predator l'enlève. Voilà. Que des trucs comme ça. Donc, puis même au niveau de l'écriture, hein, on taille pas mal sur le dessin, là, mais tu te dis, ça fonctionne beaucoup en monologue. Ben Percy nous fait des monologues de Wolverine, et franchement, c'est assez ringard. Hein. T'as des trucs, tu te dis, c'est vraiment, c'est du meublage, quoi. Il meuble beaucoup. Hein. Et il y a encore des incohérences. Tu te dis, pourquoi est-ce que Wolverine, il appelle le Predator le Yoja? Jamais il a dialogué avec un Predator. Pourquoi il l'appelle comme ça? Alors, pour rappel, le Yoja, c'est le nom un peu ridicule pour moi, qui était apparu dans les comics AVP de Dark Horse dans les années 90, mais là, il n'y a aucune raison pour laquelle Wolverine il a employé ce nom. Il sait même pas... Au début, il sait même pas que c'est un extraterrestre. Enfin, c'est... Puis c'est pas vendeur, en fait. Tu dis... Tu t'attends quand même à ce que ça charcute un peu dans ce genre de récit. Je crois que t'es d'accord avec ça, c'est ce genre de récit.
Ouais, clairement, ouais.
Tu t'attends à ça. Bah, le body count, il est pas exceptionnel, quoi. Il y a juste Dent de Sabre, hein, qui se fait transpercer par une lance. Ouais, super. Sauf que c'est montré en nombre, donc t'as même pas d'hémoglobine. Enfin, c'est poussif, quoi. Vraiment.
Du coup, tu ne recommandes pas, alors?
Ah, pas du tout. Non, non. Vraiment, j'avais beaucoup aimé le numéro de Greg Land, justement. Si tu dis, ah ouais, ça pète. Il y a même un truc avec un ours à un moment, le prédateur qui se frite contre un ours. Enfin, c'est plutôt amusant, mais le reste. C'est laborieux, quoi. C'est laborieux et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, vraiment, toute cette incohérence graphique. Et en plus, comme on vous le disait, il n'y a que 128 pages et ça coûte 19€. Donc c'est quand même assez cher. Alors si vous êtes curieux, moi je vous recommande d'essayer de le trouver d'occasion. Mais en neuf, non, c'est pas possible. Puis moi, j'ai clairement pas envie de continuer ce que faisait Ben Percy, ce que produit Ben Percy. On en parlait.
Il y a des suites qui sont prévues ou
Oui, il y a des suites qui sont prévues. Il va y avoir un Predator versus Black Panther. Et Ben Percy a dit qu'il avait déjà pitché les quatre numéros. Donc le 3 et le 4 sont déjà
prévus. Différents.
Ouais. Non mais c'est ce qu'on disait, tu sais, quand on parlait de Rob Liefeld. Pour moi, là, c'est clairement du sous Rob Liefeld. Ils essayent d'être fun, mais ils vont pas jusqu'au bout des choses. Donc ça a vraiment pas beaucoup d'intérêt, je pense.
C'est sans intérêt, en fait.
Ouais. Limite, économiser et attendez que Panini republie les omnibus Alien versus Predator. Au moins, là, vous vous amuserez. Voilà.
Ok. Eh ben, du coup, on va parler de crossover maintenant, alors.
Ouais, on envoie le jingle et on passe donc au dossier du jour. Donc, les crossovers. Donc, on va peut-être faire une petite définition pour commencer, non ?
Parfait.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un crossover ? Donc, c'est une œuvre de fiction qui réunit des personnages dont les aventures se déroulent dans des séries ou des univers bien distincts. Donc, l'un des plus connus et emblématiques de la littérature, c'est Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Donc, écrit par Maurice Blanc, le créateur de L'As de la Cambriole, et qui fut publié en 1908. Donc, c'est vraiment le premier, en tout cas, le crossover le plus connu historiquement. Dans le monde des comics, et principalement, on va dire, dans le monde des super-héros, même si c'est pas exclusif aux super-héros. Ça a connu un gros succès dans les années 90, donc on vous en parle souvent grâce aux republications en omnibus, des héros Marvel et DC, avec les crossovers Marvel versus DC. On a eu donc les Alien versus Predator chez Dark Horse Comics. Tout ça, c'est dans les années 90. Il y a eu une grosse explosion des crossovers dans les années 90, ça, pour des récits de qualité plus ou moins variables, mais qui ont permis de créer des partenariats entre différentes maisons d'édition. Comme on vous l'évoquait avec Justice League versus Godzilla et Kong, en ce moment, le gros partenariat, c'est DC Comics et IDW. Et pourtant, bien que ce soit en quelque sorte une apogée, les crossovers, ils ne furent pas inventés dans les années 1990, au contraire. Je crois d'ailleurs que tu as pas mal de détails à nous fournir là-dessus, Cédric.
Oh, oui, parce que, en fait, les comics sont nés, alors les super-héros sont arrivés, donc les comics, on en a parlé dans la précédente émission en plus, ils sont arrivés au début des années 30, les super-héros sont arrivés en 38, et ben il va pas falloir attendre longtemps pour voir apparaître la première rencontre entre deux personnages de deux séries différentes, puisqu'il faudra attendre 1939, c'est-à-dire à peine un an après, et c'est au sein du magazine Marvel Comics qui est publié, Guillaume, par...
Marvel.
oui mais non, puisqu'en fait, il s'agit de Timely Comics, qui deviendra, je te l'accorde, Marvel Comics, une petite vingtaine d'années plus tard.
C'est une histoire qui est peu connue, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne sait qu'avant Marvel, Timely. Ouais.
Nous avons quelqu'un comme J.L. Mast, qui est un auteur français, qui va bientôt faire tout un récap sur l'histoire de Timely et de Marvel. Je pense que ça sera très intéressant. Je sais que ça fait des années qu'il bosse dessus. On en reparlera, de toute façon. Voilà. Donc, Marvel va proposer donc les aventures de ses deux premiers super-héros de l'époque. Parce que les deux premiers super-héros créés par Marvel, c'est Namor le Prince des Mers et la Torche Humaine. Alors la Torche Humaine, c'est pas Johnny Storm des Quatre Fantastiques, c'est un robot qui peut s'enflammer, qu'on a pu revoir dans les Vengeurs de la Côte Ouest, notamment, dans les années 2000. Et Namor et la Torche Humaine, ils sont publiés au sein de la même revue, donc de Marvel... Marvel Comics, pardon.
C'est des héros qui sont pas mal laissés de côté depuis quelques temps, d'ailleurs.
Tout à fait. Et alors, en plus, ils sont très différents, comme le feu et l'eau. Il y a une thématique. C'est que, autant la Torche Humaine, c'est un héros au sens propre du terme, autant Namor, c'est déjà, dès ses premiers épisodes, un personnage très énervé, un anti-héros, qui en veut beaucoup au monde de la surface. Et on a déjà vu des héros mystérieux, voire cruels, Batman à la base c'est ça, mais on n'en a jamais vu des héros qui étaient assez méchants, tout du moins pas aussi méchants que Namor. Et cette originalité, en plus, elle va de pair avec une approche artistique qui est plutôt assez différente. Parce que Bill Everett, le créateur de Namor, lui, pour différencier des scènes qui se déroulaient sous l'eau et sur Terre, Bill Everett, il utilisait un papier spécial qui était composé de deux trames différentes. Une blanche, l'autre grisée, et qui permettait, selon l'artiste, de mieux rendre les effets sous-marins. Ce procédé, c'est ce procédé qui va empêcher de la réimpression des premiers épisodes de la série jusque dans les années 80, parce que c'était tellement bizarre en termes d'effets et tellement vieux qu'on n'arrivait pas à le reproduire. Mais cet effet va pas durer longtemps parce que le coloriste de Namor, de Marvel Comics, il arrive pas à le sortir non plus dans les années 30, il va pas en tenir compte, donc le rendu il est exécrable et les personnages ils sont verts en fait, voilà. Donc Everett il va rapidement revenir à une technique de dessin plus classique. Bon, même si c'est un peu raté, on va dire en termes d'effet, Bill Everett il est techniquement meilleur que Carl Burgos, le créateur donc de la Torche Humaine qui s'occupe de ses aventures. La Torche Humaine, vraiment, les épisodes ils sont pas terribles, même pour des épisodes des années 30-40, c'est pas très très bien. Après, ce sont des gens qui ont peut-être pas une technique extraordinaire, mais qui compensent vraiment par des idées originales et une énergie débordante, quoi. Et donc, arrive ce qui doit arriver. À un moment, Namor, il se décide à attaquer les États-Unis. Et puis, qui est-ce qui peut contrer Namor? C'est la Torche Humaine. Donc, l'idée de faire s'affronter donc les deux personnages phares de Marvel Comics, ça semble évident, en fait, a posteriori. Tellement, les deux héros, ils ont des pouvoirs diamétralement opposés. Et c'est exactement ce que pense donc Martin Goodman, le rédacteur en chef de Timely, qui lui est très enthousiaste et qui va demander aux auteurs de réaliser l'épisode en un week-end. Voilà. Donc, les membres du studio, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes étaient regroupés en studio. Hein. C'était des petits... ils étaient enfermés dans des pièces, ils étaient à 10 à dessiner dans des pièces. Et on sait, c'est pour ça qu'on sait jamais vraiment qui a réalisé quoi à cette époque. Et donc, bah, les artistes de ce studio vont tous aller dans l'appart de Bill Everett, hein, pour dessiner et pour réaliser le numéro donc de Marvel Comics en 2 jours. Hein. Alors, il y a tout qui fuse, hein, apparemment, les idées, les commentaires. On fait le lettrage, on fait le dessin en même temps qu'on fait l'ancrage. Enfin, voilà, c'est un rythme effréné. Hein. Et puis les planches de BD, elles se mélangent au carton de pizza vide et aux canettes de bière. Hein, puisqu'à l'époque, voilà, un des artistes, hein, a même été obligé de travailler dans la baignoire, hein, pour avoir de la place, hein, selon la légende. Donc, on produit l'épisode en 2 jours, et puis bah, ce crossover, ce tout premier crossover, va se dérouler sur 3 épisodes, hein, publiés donc, dans Marvel Comics 8 et 9. Alors, ça fait que 2 numéros, mais plusieurs épisodes étaient publiés au sein d'un même numéro. Et puis, bah, c'est d'une importance fondamentale, car souvent, on le vend comme le premier crossover de l'histoire, hein, c'est-à-dire donc la rencontre entre 2 héros différents au sein d'une seule et même histoire. Alors les 2 personnages, ils se rencontrent, ils s'affrontent, et puis finalement ils deviennent amis, hein, avant de combattre un ennemi commun dans un affrontement épique. Hein. Bah, c'est un procédé narratif qui est utilisé pour ces 3 épisodes, et qui est bah, le principe de base d'un crossover, même encore maintenant, hein, dans les années 2000, c'est-à-dire ils s'affrontent, ils découvrent qu'ils sont amis, et ils vont... combattre la grande menace. D'ailleurs, hein, mais ça a eu un effet quand même, hein, sur les personnages, puisque Namor devient un peu plus raisonnable, hein, à l'issue de cette aventure. Et il va même obtenir son propre trimestriel, hein, qui va débuter en 1941 et qui va s'arrêter en 49, hein, au bout de 32 numéros. Et donc, bah, si on fait des recherches de surface, on se rend compte que cette rencontre-là est vendue comme le premier crossover de l'histoire. Alors, on pourrait quand même arguer que c'est pas tout à fait un crossover, parce que les 2 personnages étaient publiés dans la même série, dans le même numéro. Et on pourrait dire la même chose, hein, de la Justice Society of America, qui réunissait les plus grands héros de DC Comics, mais ça restait dans les pages de ce magazine. D'ailleurs, hein, Justice Society of America, hein, c'était publié chez...
All American Comics.
Ouais, alors c'est DC. Ah, t'as lu mon texte.
Oui, voilà, en fait, je DC, triche.
Hein, mais c'est DC, mais qui s'appelait à l'époque All American Comics. Hein. D'ailleurs, hein, pour l'anecdote, hein, DC changera de nom, et c'est dû au succès de Detective Comics, hein, dont les initiales sont DC.
Et avant de passer à la suite, on s'octroie une petite pause musicale avec Ultra Vomi, qui nous fait un petit remix de la bande-son de Batman et Predator, avec Batman vs Predator, et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission sur les crossovers. A tout de suite.
Alors, la Justice Society, ben, c'est une série qui regroupait les personnages secondaires, hein, de la firme, comme Flash, Hawkman ou encore Green Lantern, mais ça les faisait pas vraiment interagir entre eux, c'est-à-dire que c'était plutôt des petites séquences où chaque héros vivait sa propre aventure et il se réunissait à la fin, en fait. Voilà.
Des personnages qu'on a pu voir dans Black Adam, notamment.
Voilà, tout à fait. Et puis, ben, en fait, c'est en 1940, hein, que deux magazines différents, cette fois-ci, vont raconter une histoire à suivre d'un magazine à l'autre. Et ce sont des super-héros aussi, mais pas ceux que vous connaissez, parce qu'il s'agit de The Shield et de Wizard, que tu connais, hein, Guillaume, forcément.
Oui,
non,
évidemment,
moi
pas
non
du
plus,
tout.
Hein,
Shield, j'ai cru que tu parlais de Nick Fury, moi, mais bon.
Non. En fait, ce sont des personnages de la compagnie MLG. Enfin, MLJ, pardon. Et la compagnie MLJ, elle est surtout connue, en fait, pour les comics Archie.
Oui, là, Archie, voilà. Oui, là, je connais.
Et à un moment, MLJ, ils ont voulu sortir leur ligne de super-héros. Et donc, il y a eu The Shield, il y a eu Wizard. Et ces deux personnages-là, ils vont se rencontrer dans une aventure qui va être à suivre dans un autre numéro. Donc, entre les magazines Top Notch Comics et Pep Comics, voilà. Et donc, il faudra acheter les deux pour avoir l'histoire complète. Le premier crossover, hein, chez Marvel, il a lieu quant à lui en 1966 dans Tales of Suspense où Namor, Namor, encore lui, va affronter Iron Man, hein, puisque Iron Man était à l'époque publié dans la série Tales of Suspense. Et le combat, il va se terminer dans Tales to Astonish, qui est le magazine dans lequel on publiait les histoires de Namor. Donc le premier véritable crossover entre des super-héros Marvel d'une série à l'autre, c'est 1966. Alors après, c'est plus facile à faire des crossovers quand on a un univers partagé. Et c'était le but de Stan Lee à la base. Là où c'est devenu plus intéressant, c'est quand il a fallu faire des crossovers intercompagnies. Et lorsque dans les années 70, on décide de faire un crossover intercompagnie, on va prendre les deux héros les plus populaires, donc de Marvel et de DC, qui seront...
Spider-Man et Superman, non ?
Voilà, et ça a donné lieu donc à un premier crossover qui s'est plutôt bien passé, qui a été co-réalisé hein, par Marvel et DC. On avait pris globalement des dessinateurs, des scénaristes de chaque maison d'édition, et puis les dessins étaient confiés à un dessinateur qui réalisait des dessins à la fois pour Marvel et à la fois pour DC, qui était Ross Andrew, mais qui a été beaucoup aidé aussi, je pense, par du John Buscema. Il y a eu pas mal de monde qui s'est mis dessus. Mais le crossover a bien fonctionné, et vraiment, ça a été un événement, hein, cette rencontre entre Superman et Spider-Man, qui a donné lieu à une suite quelques temps après. Et ça a lancé tout un univers de crossover entre Marvel et DC. Alors, on a eu un Batman contre Hulk, qui est vraiment très intéressant, avec des dessins absolument fantastiques de José Luis García López, voilà, où ils vont affronter le Joker et l'Abomination. Je pense que ça doit être ça, voilà. On a eu aussi quelques crossovers comme ça qui sont arrivés, notamment le fameux X-Men contre les Teen Titans, réalisé par Chris Claremont et Walt Simonson. Et puis, tout le monde est en train de se dire, voilà, allons-y. Hein. Donc là, on est au début des années 80. Il y a un dessinateur qui s'appelle George Perez, hein, qui est décédé l'année dernière, qui était le dessinateur qui réalisait les Avengers chez Marvel et qui dessinait en même temps la Ligue de Justice chez DC Comics. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, on va faire le grand crossover que tout le monde attend, Avengers versus la Justice League. Et là, ça a commencé... Il a commencé à avoir des problèmes, notamment au niveau de l'éditeur de Marvel de l'époque, qui était Jim Shooter, et
oui,
Mike Carlin.
Il avait des comptes à régler en plus avec DC à l'époque.
Ouais, Jim Shooter, il avait son caractère, donc il a commencé à renvoyer les scénarios, les gens ont commencé à s'embrouiller, et puis le crossover, il est arrivé dans un espèce de néant... au niveau de la publication, même si George Perez a dû réaliser une vingtaine de pages, hein, et à un moment, ils se sont dit, on arrête. Donc, il y a eu vraiment un arrêt, hein, total, hein, des crossovers entre Marvel et DC à partir de ce moment-là, et il a fallu attendre très longtemps pour que Marvel et DC décident de refaire des crossovers. Alors ça a commencé à revenir un petit peu avec des formats très très grands, des formats très tabloïdes. Je me rappelle d'un Superman Fantastic Four réalisé par Dan Jurgens, justement. Je me rappelle aussi d'un Daredevil Batman, d'un Punisher Batman, d'un Spawn Batman.
Oui, dont...
Marvel et DC, c'est Image et...
Ouais, il y a eu le Spawn Batman de Frank Miller, plus le récent, là, dont on avait parlé en début de saison.
Voilà, il y a eu un Batman Spawn, hein, qui a été publié par DC et qui avait Klaus Janson au dessin. Donc, on arrive dans ces années-là, donc tu disais, hein, les années 90, hein, où les crossovers recommencent à fleurir. Jim Shooter, ça fait longtemps qu'il est parti, et les éditeurs, que ce soit Marvel ou DC, voient l'intérêt, hein, de commencer à retravailler sur leurs personnages.
Sachant qu'ils étaient, enfin Marvel était dans une mauvaise situation financière à l'époque, donc il fallait absolument tout faire pour essayer de ramener de l'argent.
C'est ça. Et puis à un moment, eh ben voilà, on nous sort un DC versus Marvel où tous les super-héros Marvel doivent affronter tous les super-héros DC, et c'est le lecteur qui doit voter pour qui sera le gagnant. Donc ça a été une mini-série, hein, voilà, qui a introduit donc l'univers qu'on a appelé Amalgame, hein, dont on a parlé et qui va être republié en omnibus aux États-Unis, où on va même avoir une fusion entre l'univers Marvel et l'univers DC, où les personnages vont se mélanger, c'est-à-dire vous allez prendre Captain America et vous allez le fusionner avec Superman et ça va donner Super Soldier, vous allez prendre Batman et vous allez le fusionner avec Wolverine, ça va donner Darkclaw, vous allez prendre Spider-Man et le fusionner avec Superboy et vous allez avoir Spider-Boy, avec des histoires qui sont souvent qu'en un seul épisode, mais qui sont plutôt amusantes et réalisées par de grands dessinateurs, hein. On a eu du Scott McDaniel, on a du John Byrne, on a
du Romita Junior, oui, on a tous les
Junior,
les grands artistes.
Thorion, le mélange entre Thor et Orion des New Gods, voilà, on mélange tout. Alors c'est rigolo, hein, c'était plutôt sympa, c'est ce qu'on appelle l'univers amalgame, voilà. Et puis ben arrive ce qui doit arriver, hein. George Perez relance la série Avengers avec Kurt Busiek. Tous les voyants sont au vert et on aura donc, je crois, c'est alors je n'ai plus l'année de publication. J'aurais tendance à dire 2005-2006 peut-être.
Moi non plus là, je l'ai pas.
La série donc JLA Avengers, hein, donc scénarisé par Kurt Busiek, hein, qui est quand même voilà une référence en termes de continuité, que ce soit Marvel ou DC, et puis bah dessiné donc par George Perez. Alors l'histoire s'inspire très très peu, hein, de l'histoire qui avait été prévue 20 ans plus tôt, même s'il y a encore des références. Et ce qu'il faut savoir, bah c'est qu'après Marvel et DC sont repartis un petit peu en bisbille, voilà, et qu'on a eu très très peu de crossover à la suite de ça, et que bah ce Avengers, ce JLA Avengers n'a jamais été republié depuis, si ce n'est lors de la mort de George Perez, où Marvel Edition réussit à se mettre d'accord pour le republier, alors à très peu d'exemplaires, pour lui rendre hommage, parce que George Perez, avant de mourir, il voulait juste que ses histoires soient republiées.
C'était en 2003-2004,
ouais,
la sortie.
2003-2004, JLA Avengers, qui a vraiment beaucoup marché, hein, voilà, mais qui n'a pas relancé tant que ça la mode des crossovers entre Marvel et DC. Donc voilà, le crossover, finalement, ça reste un moyen de pouvoir, et ça va être plus ou moins la conclusion, je pense, de notre émission, c'est que le crossover, c'est un moyen facile de pouvoir amener deux lectorats sur le même titre. D'ailleurs, vous êtes fan de Superman, vous êtes fan de Spider-Man, mais vous lisez peut-être pas Superman, bah peut-être vous allez lire le Superman-Spider-Man. Alors c'est devenu, hein, donc vraiment, toutes les histoires commençaient à se mélanger... On a eu quand même des exemples terribles qui étaient, à mon sens, sur Superman. Superman, dans les années 90-2000, il était publié dans 4 titres différents. Et en fait, les histoires se suivaient dans les 4 titres. Ce qui veut dire que si vous vouliez avoir une histoire complète, il fallait chaque mois acheter les 4 titres Superman. Et c'était tellement le bazar qu'à un point, à un moment, ils ont décidé de numéroter les titres, non plus en fonction de leur numéro de publication, mais de leur place dans la chronologie. C'est-à-dire pour que le lecteur puisse s'y retrouver. Et il y a eu la même chose quelques années après sur les 4 titres Spider-Man qui nous ont vendus pendant la saga du clone, où vous aviez une arche narrative qui était sur les 4 titres Spider-Man, plus des fois des bonus. Et c'était totalement incompréhensible pour un lecteur qui venait occasionnellement, parce que s'il ne lisait que la série, par exemple, Amazing Spider-Man, bah, il avait la première partie de telle histoire, et puis la partie 2 de telle histoire, alors que les numéros étaient estampillés 502, 503, 504, quoi, hein, voilà.
D'ailleurs, même les omnibus de la saga du clone ne sont pas complets, il va falloir attendre les Epic Collections pour vraiment l'intégralité de l'histoire.
Et, c'est devenu vite le bazar et ça a causé, comme beaucoup, une espèce de grosse crise. Mais les crossovers, alors après, on a décidé de plus trop faire de crossovers entre les séries après cette grosse période-là, mais de faire des events, donc des grands événements annuels qui regrouperaient tous les super-héros et qui se distilleraient à chaque fois sur les séries principales de ces super-héros-là. Donc ça a été Civil War, ça a été Fear Itself, ça a été House of M, où vous aviez une mini-série principale. Mais par contre, les événements se déroulaient dans les séries régulières des personnages. Ça a duré très très longtemps, et je crois que chaque année, il y avait un event. Ça s'est arrêté depuis quelques temps,
bah, parce que ça marche plus. Ça se fait, ça se fait toujours. Regarde, là, on a deux sur Venom, là, deux années de suite.
Oui.
Après, la qualité est douteuse, mais...
C'est ce qui m'a fait décrocher, hein, vraiment. Voilà, donc, mine de rien, le crossover, et c'est toujours la même chose, et... Et c'est limite pas mal, hein, pour conclure cette saison de notre émission, c'est de dire que finalement, un crossover, ça peut être sympa si à la base, au départ, il y a une bonne idée, quoi.
Voilà, comme si Predator versus Wolverine, voilà.
Si on décide de construire, de dire, voilà, il faut qu'on fasse ça, et puis on trouvera une idée scénaristique derrière, souvent c'est de moindre qualité. Et ce qu'on veut, nous, c'est qu'on ait des comics de très bonne qualité, ce qui est souvent le cas, on va pas se mentir, hein, non plus. Mais on remarque, hein, que souvent, ça part d'une idée pour arriver au produit fini plutôt que le contraire.
Oui, exact. Oui, c'est un peu ça, le problème. Bon, bien, on vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis au cours de ces 12 émissions, ces 12 premières émissions de la saison 0. On termine, du coup, sur les chapeaux de roue avec cette émission sur les crossovers, hein, qu'on attendait de vous faire depuis
on en reparlera.
Oui, en plus, il faut que tu présentes le crossover un peu spécial avec le Punisher, là.
Effectivement, ouais.
Donc, la rentrée, c'est le 3 septembre à la radio, donc on se retrouvera à ce moment-là. Si notre emploi du temps le permet, on essaiera de vous proposer quelques émissions estivales. Restez à l'affût pour en savoir plus. En attendant, prenez soin de vous, et cet été, n'oubliez pas de...
Bah, de lire des comics, sous tous les formats, avec tous les personnages que vous voulez, mais surtout, faites-vous plaisir, voilà.